Suite du chapitre 14. Toutes trois se penchèrent, très intéressées. Les arbres les gênaient. Par moments, les torches disparaissaient sous les feuilles. Elles tâchèrent d'apercevoir ces messieurs en bas. Mais la saillie d'un balcon cachait la porte, et elles ne distinguaient toujours que le comte Muffa, jeté sur le banc comme un paquet sombre, le visage dans son mouchoir. Une voiture s'était arrêtée. Lucie reconnut Maria Blond, encore une qui accourait. Elle n'était pas seule. Un gros homme descendait derrière elle. « C'est ce voleur de Steiner !» dit Caroline. « Comment ? On ne l'a pas encore renvoyé à Cologne ? Je veux voir sa tête quand il rentrera. » Elles se tournèrent. Mais au bout de 10 minutes, lorsque Maria Blond parut, après s'être 2 fois trompée d'escalier, elle était seule. Et comme Lucie, étonnée, l'interrogeait, « Lui ? Ah bien, ma chère, si vous croyez qu'il va monter, c'est déjà beau qu'il m'ait accompagné jusqu'à la porte. Ils sont près d'une douzaine qui fument des cigares. » En effet, tous ces messieurs se retrouvaient. Venus en flânant pour donner un coup d'œil au boulevard, ils s'appelaient et ils s'exclamaient sur la mort de cette pauvre fille. Puis ils causaient politique et stratégie. Bordenave, Daguenet, Labordette, Prullière, d'autres encore avaient grossi le groupe. Et ils écoutaient Fontan, qui expliquait son plan de campagne pour enlever Berlin en 5 jours. Cependant, Maria Blond, prise d'attendrissement devant le lit, murmurait comme les autres. « Pauvre chat, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Gaîté, dans la grotte. Ah, elle est changée. Elle est changée, » répétait Rose Mignon avec son sourire de morne accablement. 2 femmes arrivèrent encore, Tata Nénée et Louise Violaine. Celle-là battait le grand hôtel depuis 20 minutes, renvoyée de garçon en garçon. Elles avaient monté et descendu plus de 30 étages au milieu d'une débâcle de voyageurs qui se hâtaient de quitter Paris, dans la panique de la guerre et de cette émotion des boulevards. Aussi, en entrant, se laissèrent-elles tomber sur des chaises, trop lasses pour s'occuper de la morte. Justement, un vacarme venait de la chambre voisine. On roulait des malles, on cognait les meubles, avec tout un bruit de voix broyant des syllabes barbares. C'était un jeune ménage autrichien. Gaga racontait que, pendant l'agonie, les voisins avaient joué à se poursuivre. Et, comme une simple porte condamnée séparait les 2 chambres, on les entendait rire et s'embrasser quand ils s'attrapaient. « Voyons, il faut partir, » dit Clarisse. « Nous ne la ressusciterons pas. Viens-tu, Simone ?» Toutes regardaient le lit du coin de l'œil sans bouger. Pourtant, elles s'apprêtaient, elles donnaient de légères tapes sur leurs jupes. À la fenêtre, Lucie s'était accoudée de nouveau, toute seule. Une tristesse, peu à peu, la serrait à la gorge, comme si une mélancolie profonde eût monté de cette foule hurlante. Des torches passaient encore, secouant des flammèches. Au loin, les bandes moutonnaient, allongées dans les ténèbres, pareilles à des troupeaux menés de nuit à l'abattoir. Et ce vertige, ces masses confuses, roulées par le flot, exhalaient une terreur, une grande pitié de massacre futur. Ils s'étourdissaient, les cris se brisaient dans l'ivresse de leur fièvre, se ruant à l'inconnu, là-bas, derrière le mur noir de l'horizon. « Ah, Berlin ! Ah, Berlin ! Ah, Berlin !» Lucie se retourna, adossée à la fenêtre et toute pâle. « Mon Dieu, qu'allons-nous devenir ?» Ces dames hochèrent la tête. Elles étaient graves, très inquiètes des événements. « Moi, » dit Caroline Équet de son air posé, « je pars après-demain pour Londres. Maman est déjà là-bas qui m'installe un hôtel. Bien sûr, je ne vais pas me laisser massacrer à Paris. » Sa mère, en femme prudente, lui avait fait placer toute sa fortune à l'étranger. On ne sait jamais comment une guerre peut finir. Mais Maria Blond se fâcha. Elle était patriote. Elle parlait de suivre l'armée. « En voilà une traqueuse. Oui, si l'on voulait de moi, je m'habillerais en homme pour leur flanquer des coups de fusil à ces cochons prussiens. Quand nous claquerions toutes, après, une jolie chose que notre peau. » Blanche de Sivry fut exaspérée. « Ne dis donc pas de mal des Prussiens. Ce sont des hommes pareils aux autres et qui ne sont pas toujours sur le dos des femmes comme les Français. On vient d'expulser le petit Prussien qui était avec moi, un garçon très riche, très doux, incapable de faire du mal à personne. Et c'est une indignité, ça me ruine. Et tu sais, il ne faut pas qu'on m'embête, ou je vais le retrouver en Allemagne. » Alors, pendant qu'elle s'empoignait, Gaga murmura d'une voix dolente, « C'est fini, je n'ai pas de chance. Et il n'y a pas 8 jours, j'ai achevé de payer ma petite maison de Juvisy. Ah, Dieu sait avec quelle peine, Lily a dû m'aider. Et voilà la guerre déclarée. Les Prussiens vont venir, ils brûleront tout. Comment veut-on que je recommence à mon âge ?»« Bah, dit Clarisse, je m'en fiche, je trouverai toujours. » »« Bien sûr, ajouta Simone, ça va être drôle. Peut-être au contraire que ça marchera. » Et d'un sourire, elle compléta sa pensée. Tata Néné et Louise Violaine étaient de cet avis. La première raconta qu'elle avait fait des noces à tout casser avec des militaires. Oh, de bons garçons, et qui auraient commis les 119 coups pour les femmes. Mais ces dames ayant trop élevé la voix, Rose Mignon, toujours sur le coffre, devant le lit, les fit taire d'un chut, soufflait légèrement. Elles restèrent saisies, avec un regard oblique vers la morte, comme si cette prière de silence fût sortie de l'ombre même des rideaux. Et, dans la lourde paix qui tomba, cette paix du néant, où elle sentait la rigidité du cadavre étendu près d'elle, les cris de la foule éclatèrent. « Ah, Berlin ! Ah, Berlin ! Ah, Berlin !» Mais bientôt, elles oublièrent de nouveau. Léa de Horn, qui avait un salon politique où d'anciens ministres de Louis-Philippe se livraient à de fines épigrammes, reprit très bas en haussant les épaules. « Quelle faute, cette guerre ! Quelle bêtise sanglante !» Alors, tout de suite, Lucie prit la défense de l'Empire. Elle avait couché avec un prince de la maison impériale. C'était pour elle affaire de famille. « Laissez donc, ma chère, nous ne pouvions nous laisser insulter davantage. Cette guerre est l'honneur de la France. Oh, vous savez, je ne dis pas ça à cause du prince, il était d'un rat. » Imaginez-vous, le soir, en se couchant, il cachait ses louis dans ses bottes. Quand nous jouions au bésigue, il mettait des haricots, parce qu'un jour j'avais fait la blague de sauter sur l'enjeu. Mais ça ne m'empêche pas d'être juste, l'empereur a eu raison. » Léa hochait la tête d'un air de supériorité, en femme qui répète l'opinion de personnages considérables. Et, haussant la voix, « C'est la fin. Ils sont fous aux Tuileries. Hier, voyez-vous, la France aurait dû plutôt les chasser. » Toutes l'interrompirent violemment. « Qu'avait-elle donc, cette enragée-là, après l'empereur? Est-ce que le monde n'était pas heureux? Est-ce que les affaires ne marchaient pas? Jamais Paris ne s'amuserait si fort. » Gaga s'emportait, réveillée, indignée. « Taisez-vous, c'est idiot, vous ne savez pas ce que vous dites. Moi, j'ai vu Louis-Philippe, une époque de panais et de grigou, ma chère. Et puis est venu 48. Ah, une jolie chose, une dégoûtation, leur république. Après février, j'ai crevé la faim, moi qui vous parle. Mais si vous aviez connu tout ça, vous vous mettriez à genoux devant l'empereur, car il a été notre père. Oui, notre père. » On dut la calmer. Elle reprit, dans un élan religieux, « Oh, mon Dieu, tâchez que l'empereur ait la victoire. Conservez l'empire. » Toutes répétèrent ce vœu. Blanche avoua qu'elle brûlait des cierges pour l'empereur. Caroline, prise d'un béguin, s'était promenée pendant 2 mois sur son passage, sans pouvoir attirer son attention. Et les autres éclataient en paroles furibondes contre les républicains, parlaient de les exterminer à la frontière, afin que Napoléon III, après avoir battu l'ennemi, régnât tranquille, au milieu de la jouissance universelle. Ce sale Bismarck, en voilà encore une canaille, fit remarquer Maria Blanc.
Dire que je l'ai connu,
cria Simone. Si j'avais pu savoir, c'est moi qui aurais mis quelques drogues dans son verre.
Mais Blanche, ayant toujours sur le cœur l'expulsion de son Prussien, osa défendre Bismarck.
Il n'était peut-être pas méchant, chacun son métier.
Elle ajouta,
vous savez qu'il adore les femmes.
Qu'est-ce que ça nous fiche ?
Dit Clarisse. Nous n'avons pas envie de le faire, peut-être.
Des hommes comme ça, il y en a toujours de trop, déclara Louise Violaine gravement. Vaudrait mieux s'en passer que d'avoir affaire à de pareils monstres.
Et la discussion continua. On déshabillait Bismarck. Chacune lui allongeait un coup de pied dans son zèle bonapartiste. Pendant que Tatan aîné répétait d'un air vexé,
« Bismarck, m'a-t-on fait enrager avec celui-là ? Oh, je lui en veux. Moi, je ne le connaissais pas, ce Bismarck. On ne peut pas connaître tout le monde. »«
N'importe, » dit Léa de Horn pour conclure. « Ce Bismarck va nous flanquer une jolie tripotée. »
Elle ne put continuer. Ces dames se jetaient sur elle.
« Hein ? Quoi ? Une tripotée ? Mais c'était Bismarck qu'on allait reconduire chez lui, à coups de crosse dans le dos. Avait-elle fini, cette mauvaise Française ? »
Chut ! Souffla Rose Mignon, blessée d'un tel tapage. Le froid du cadavre les reprit. Elles s'arrêtèrent toutes à la fois, gênées, remises en face de la mort, avec la peur sourde du mal. Sur le boulevard, le cri passait, enroué, déchiré.
À Berlin ! À Berlin ! À Berlin !
Alors, comme elle se décidait à partir, une voix appela du corridor.
« Rose ! Rose ! »
Étonnée, Gaga ouvrit la porte, disparut un instant. Puis, quand elle revint,
« Ma chère, c'est Fauchery qui est là-bas, au fond. Il ne veut pas avancer. Il est hors de lui, parce que vous restez près de ce corps. »
Mignon avait fini par pousser le journaliste. Lucie, toujours à la fenêtre, se pencha, et elle aperçut ces messieurs sur le trottoir, la figure en l'air, lui faisant de grands signes. Mignon, exaspéré, tendait les poings. Steiner, Fontan, Bordenave et les autres ouvraient les bras d'un air d'inquiétude et de reproche, tandis que Daguenay, pour ne pas se compromettre, fumait simplement son cigare, les mains derrière le dos.
« C'est vrai, ma chère, » dit Lucie en laissant la fenêtre ouverte. « J'avais promis de vous faire descendre. Ils sont tous à nous appeler. »
Rose quittait péniblement le coffre à bois. Elle murmura
« Je descends, je descends. Bien sûr, elle n'a plus besoin de moi. On va mettre une sœur. »
Et elle tournait sans pouvoir trouver son chapeau et son châle. Machinalement, sur la toilette, elle avait empli une cuvette d'eau. Elle se lavait les mains et le visage en continuant.
« Je ne sais pas, ça m'a donné un grand coup. Nous n'avions guère été gentilles l'une pour l'autre. Eh bien, vous voyez, j'en suis imbécile. Oh, toutes sortes d'idées, une envie d'y passer moi-même, la fin du monde. Oui, j'ai besoin d'air. »
Le cadavre commençait à empoisonner la chambre. Ce fut une panique après une longue insouciance.
« Filons, filons, mes petites chattes !» répétait Gaga. « Ce n'est pas sain !»
Elle sortait vivement en jetant un regard sur le lit. Mais, comme Lucie, Blanche et Caroline étaient encore là, Rose donna un dernier coup d'œil pour laisser la pièce en ordre. Elle tira un rideau devant la fenêtre. Puis, elle songea que cette lampe n'était pas convenable. Il fallait un cierge. Et après avoir allumé l'un des flambeaux de cuivre de la cheminée, elle le posa sur la table de nuit à côté du corps. Une lumière vive éclaira brusquement le visage de la morte. Ce fut une horreur. Toutes frémirent et se sauvèrent.
« Ah, elle est changée !»
murmurait Rose Mignon, demeurée la dernière. Elle partit, elle ferma la porte. Nana restait seule, la face en l'air, dans la clarté de la bougie. C'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue,
jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre. Et flétrie, affaissée, d'un aspect grisâtre de boue, elle semblait déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe où l'on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence. L'autre, à demi ouvert, s'enfonçait comme un trou noir et gâté. Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche qu'elle tirait dans un rire abominable. Et sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d'or. Vénus se décomposait. Il semblait que le virus, pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l'avait pourri. La chambre était vide. Un grand souffle désespéré monta du boulevard et gonfla le rideau.